On va reprendre notre cher Jacob, qui, comme vous l'avez remarqué, est très loin de la perfection. Et je lisais quelque part, Dieu réalise ses promesses avec les patriarches ou bien malgré les patriarches. Et je crois que c'est un petit peu la même chose avec nous, hein. Dieu réalise ses promesses avec nous ou quelquefois malgré nous, malgré nos fautes, malgré nos défaillances, malgré tout ce qui ne va pas chez nous. Heureusement, hein. Heureusement. Alors, on s'était arrêté quand il avait vendu donc son droit d'aînesse. C'était pas très malin de sa part, mais enfin, de la part d'Ésaü, de l'avoir vendu, et de la part de Jacob, d'avoir profité de la faiblesse de son frère. Pourtant, Dieu va être capable de réaliser ses promesses, mais en son temps. Il est clair, la Bible ne le dit pas clairement, et là aussi, surtout les jeunes, faites attention quand vous lisez la Bible, c'est pas parce que c'est écrit dans la Bible que Dieu l'approuve. Cain va tuer Abel, hein, vous voyez bien que c'est pas parce que Dieu approuve. Et là, c'est pareil, il n'y a pas tellement de commentaires. Le seul commentaire, c'est très bref, « Ainsi, Ésaü méprisa le droit d'aînesse. » Après, c'est à nous de comprendre. Et ça ne veut pas dire que Dieu approuve le brave Jacob qui a profité de la faiblesse de son frère. Donc ça demande un petit peu quelquefois de réflexion. Et à ce propos, justement, j'avais à cœur de vous dire, quand j'étais en Angleterre, je travaillais dans un camp de la Ligue pour la lecture de la Bible, et ils ont une prière systématique avant de lire la Bible, demandant au Saint-Esprit de nous éclairer pour lire la Bible. Et quand j'avais 16 ans, je trouvais ça un peu, quand même, on sait lire, hein. C'est pas si compliqué la Bible, moi je la lisais depuis mes 6 ans, je trouvais pas ça si compliqué qu'on ait besoin de demander l'aide du Saint-Esprit. Bon, je ne le disais pas, hein, parce que ça ne se dit pas ce genre de choses, mais je le pensais. Et vous y avez peut-être déjà pensé, vous aussi. Et en fait, c'est dans des passages comme ça qu'on s'aperçoit qu'on a besoin de l'éclairage du Saint-Esprit. Vous allez voir tout à l'heure particulièrement. Parce qu'on peut vraiment comprendre certaines paroles de la Bible de travers. Avec les mêmes mots, on peut comprendre deux choses totalement différentes. Et on va le voir tout à l'heure avec Jacob. On peut comprendre deux choses tout à fait différentes. À tel point que les commentateurs qui en savent beaucoup plus que nous, qui connaissent l'hébreu, qui lisent dans le texte, eh ben, sont complètement partagés. Vous avez ceux qui pensent A, ceux qui pensent B. Alors je dis, Seigneur, éclaire-nous par ton Saint-Esprit, maintenant j'ai compris. Voilà, donc Dieu, il s'éclaire, hein, il a désapprouvé la ruse. Très juste. Eh bien oui, Seigneur, nous te demandons que soit ton Saint-Esprit qui nous guide dans notre compréhension de ta parole, et pas nos sentiments, nos façons de voir, nos schémas de pensée aussi, nos blessures parfois, qui nous font réagir à certaines paroles et qui nous les font prendre de travers. Te prions, Seigneur, que ce soit ton Esprit qui nous guide dans notre façon de comprendre ta parole et surtout de l'appliquer à notre vie quotidienne. Amen. Elle est un petit peu plus courte, mais je la sais en anglais, mais en français. Dieu a désapprouvé la ruse et la manipulation de Jacob. Mais comme Jacob a foi dans les paroles de Dieu, il ne va pas complètement rejeter Jacob, parce que Jacob a quand même un minimum de foi en Dieu. Par contre, comme je vous l'ai dit la dernière fois, c'est là qu'on s'était arrêté, il va lui faire repasser l'examen une deuxième fois. Il va le remettre en face d'une situation semblable. Et je le dis souvent, je sais que je me répète, mais c'est tellement important. Chaque fois que Dieu voit qu'on n'a pas compris un de ses messages, il nous fait repasser l'examen et il nous remet dans la même situation. C'est extrêmement désagréable, mais c'est comme ça. Et malheureusement, dans ma vie qui commence à être un peu longue, j'ai vu beaucoup de gens qui repassaient tout le temps, par la même expérience. Et on a pitié, on dit « Oh Seigneur, quand même, tu ne vas pas les laisser comme ça ». Mais il y a un domaine où je trouve Dieu est vraiment incontournable, implacable, c'est bien celui-là. Il y en a certainement d'autres. Où quand il voit que quelqu'un ne comprend pas ce qu'il veut lui dire, il le fait repasser par la même expérience. Une fois, deux fois, trois fois. Je me souviens d'une expérience à ce propos d'une dame qui devait passer un examen pour être infirmière. Et elle était douée, moi, je trouve. Et curieusement, à chaque fois qu'elle passait l'oral, échec. Une fois, deux fois, trois fois. Je trouvais ça vraiment bizarre. Bon, il y a des fois, on sait que c'est un refus de Dieu. Dieu ne veut pas qu'on fasse telle filière ou autre, c'est différent. Mais pour elle, je sentais que ce n'était pas le cas. Et un jour, j'ai fait quelque chose que j'ai horreur de faire, mais là, Dieu m'y avait poussé. Je suis allée la voir en lui disant, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose dans ton attitude à l'oral qui bloque les examinateurs. On n'aime pas dire ça, hein. C'est gênant. Si je m'étais trompée, surtout, ça aurait été embêtant. Et heureusement, elle n'a pas trop mal reçu, et du coup, on a prié là-dessus. Elle a repassé une quatrième fois. Et là, elle a réussi. Elle avait changé d'attitude entre deux. Et moi, j'ai appris quelque chose ce jour-là. Que parfois, on plaint les gens quand ils vivent des échecs à répétition. Ça ne veut pas dire que c'est toujours le cas, hein, attention. Mais parfois, on voit des gens qui vivent des échecs à répétition. Et on se dit, mais pour les pauvres, on prie pour eux. Seigneur, vraiment, t'es pas gentil. Et en fait, parfois, il faudrait peut-être demander à Dieu, Seigneur, montre-lui au moins ce qui bloque. Et puis éventuellement, montre à quelqu'un d'autre si on peut les aider. Parce que quelquefois, c'est difficile de voir pour soi-même. Quelqu'un en face va voir plus facilement que nous. Hein. Si on a une tache sur le bout du nez, on ne la voit pas. Il faut bien que ce soit les gens en face qui le voient. Voilà. Donc, je vous le signale parce que dans la vie, ça arrive souvent. Hein, que Dieu nous fasse repasser. Moi, j'ai vu des gens qui ont passé leur vie à revivre les mêmes expériences. Parce que visiblement, ils ne voulaient pas comprendre. Parce que je pense que si Dieu nous le fait vivre, c'est qu'il nous sent capable de comprendre. Et j'ai beaucoup aimé la prière d'un frère récemment qui disait « Seigneur, tu vois les plans, tu vois ce que j'ai envie de faire, etc. Mais Seigneur, montre-moi s'il y a des obstacles dans ma vie qui m'empêchent d'y arriver. » Je dis « Ah, lui, il a compris quelque chose. » Bon, la situation empire à la maison. Ésaü prend deux femmes cananéennes. Ha, même pas qu'une, deux. Parmi les Hittites, au passage, c'est ce fameux peuple que les savants, les intellectuels français particulièrement, disaient, il n'existe pas puisqu'on n'en parle que dans la Bible. Et puis, bien sûr, un jour, on a trouvé toute une bibliothèque de plaquettes cunéiformes sur les Hittites. Personne ne s'est excusé, mais on sait maintenant que les Hittites existent puisqu'on en parle ailleurs que dans la Bible. Bon, c'est sans commentaire. Donc, il a pris deux femmes Hittites. Et ça, la Bible nous dit que ça a été un sujet d'amertume. Là aussi, la Bible est très sobre. Elle ne raconte pas les histoires avec la belle-mère et tout. Elle dit simplement, ça a été un sujet d'amertume et pour Isaac et pour Rebecca. C'est tout. La Bible est très, très sobre, mais on imagine. Ça ne devait pas être drôle. Hein. Elles avaient une façon de vivre, une façon d'élever les enfants, une façon de sacrifier à leur Dieu, qui devait quand même peser très, très lourd pour Isaac et Rebecca. Alors, c'est surprenant parce que Abraham avait refusé ce genre de femme pour son fils. Vous vous souvenez qu'il avait envoyé son serviteur le plus fidèle chercher Rebecca dans sa propre famille à Haran. Et elle s'était sentie appelée par Dieu et elle avait suivi. Hein. Rebecca était donc bien placée pour désapprouver parce qu'elle avait été cherchée par Eliezer, donc à Haran. Elle était venue, s'est mariée avec Isaac. Elle savait comment Dieu devait procéder. Alors, ce que je ne comprends pas, là, il y a deux choses. Le texte ne dit rien et on ne peut pas deviner. Est-ce que Isaac n'a pas fait la même chose que son père? Et il a eu tort de dire, bon, les garçons, si vous voulez vous marier, ce sera avec quelqu'un qui respecte notre Dieu et pas avec des adorateurs de Baal et je ne sais quoi. La Bible ne dit pas. Rebecca aussi était rudement bien placée pour dire, bon, vous n'allez pas chercher des filles parmi les Hittites, les Cananéennes, vous allez partir et en chercher une comme moi. Moi, je suis bienvenue, il y en a bien d'autres qui pourront venir. La Bible ne dit pas du tout. Est-ce qu'ils ont suivi le chemin d'Abraham? Peut-être. Peut-être il a refusé. Peut-être simplement ils n'ont pas fait. Ils se sont dit, oh, c'est un tellement bon chasseur, on ne va pas l'embêter. Comme j'entends parfois des gens dire, bah, ils sont tellement gentils avec nous, d'accord, ils n'aiment pas le Seigneur, mais ils sont tellement gentils avec nous, c'est l'essentiel. Attention. Donc on ne sait pas s'ils ont transmis ou pas, mais en tout cas, le fait est là, Ésaü épouse deux femmes cananéennes. Alors dans le chapitre qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le chapitre 27, Isaac est vieux, ses yeux s'étaient affaiblis, il ne voyait plus, il appela Ésaü son fils aîné, mon fils, celui-ci répondit, je suis là, il reprit, je suis vieux et je ne connais pas le jour de ma mort. Ça voulait dire à l'époque, bah, je vais peut-être bientôt mourir. Certains commentateurs pensent que Ismaël venait de mourir. Donc c'est possible qu'il ait eu un coup de blues, ou bien peut-être il était malade, problème avec ses yeux ou autre. En tout cas, le fait de ne pas y voir, hein, ma belle-mère avait ce problème et me disait que c'est, même à 90 ans, c'est extrêmement pénible. Et ça, ça vous prend au moral. Et donc, on peut comprendre qu'il est extrêmement déprimé et il appelle son fils, préféré naturellement. Là aussi, je suis étonnée, on ne parle pas du tout de Dieu. Au moment où on va mourir, pourtant, je pense qu'on pourrait y penser. Il ne recherche pas Dieu directement pour savoir ce qu'il doit faire, mais il appelle son chouchou. Il lui réclame un repas de gibier. Vous avez vu, prends, je te prie, tes armes, ton carquois et ton arc, sors dans la campagne, chasse du gibier pour moi, prépare-moi un plat appétissant comme je les aime et apporte-le pour moi pour que je le mange. Et là, il y a un mot qui me gêne beaucoup. Il est partout dans les traductions, donc je pense qu'il convient. Afin que je te bénisse avant de mourir. À quoi dépend la bénédiction ? De quoi dépend la bénédiction ? Ça m'a beaucoup gênée. Est-ce que c'est une récompense pour ses loyaux services ? Une récompense pour sa bonne cuisine ? La Bible est tellement sobre, hein, qu'on peut se poser toutes ces questions. En tout cas, la démarche d'Isaac ne me semble pas très spirituelle. Qu'il fasse un repas, ça peut être compris comme un repas d'alliance, comme un repas, vous savez, comme la Sainte-Cène, hein, un repas qui marque un événement. Ok, peut-être qu'il marque aussi un serment, une bénédiction. Mais ce que j'aime pas, c'est vraiment, il insiste sur le côté gibier, hein, c'est pas n'importe quel repas. Et appétissant, comme je les aime. Bon, son estomac avait l'air d'avoir une très très grande importance pour lui. Afin que je te bénisse avant de mourir. Le lien me plaît pas du tout, mais bon. Est-ce que c'est un repas aussi pour lui remonter le moral ? Enfin, on sent qu'il y a tout un mélange. Voilà, on va pas le mettre à mort, ce pauvre Isaac, mais il y a un mélange dans sa vie. Comme chez nous, hélas. Il y a un mélange entre le côté spirituel, l'affectif, son âme, ses sens. Il y a un gros mélange. Et vous allez voir, il va changer après. Mais là, il est dans une période vraiment sombre, je trouve. Il semble oublier volontairement les paroles de Dieu à la naissance des jumeaux, puisqu'il lui parle de le bénir en tant qu'aîné. Hein. Il a oublié la parole de Dieu. Et puis, il montre aussi à quoi tient son favoritisme. Ce n'est pas du tout les valeurs du royaume de Dieu, parce qu'il appréciait le gibier, dit-il. Ce sont ses goûts personnels qui vont guider ses décisions, alors qu'il faut se remettre dans l'ambiance de l'époque. Bon, à notre époque, ça ne choquerait pas forcément. Hein. On va faire un repas de famille, au contraire, on dira, bah, c'est bien, il sent qu'il va mourir, il fait un repas de famille, il va prier pour son fils. Bon. Il en a deux, quand même, au passage. Enfin, bon. Et puis... Le problème, c'est qu'à l'époque, il était à la fois, en tant que chef de tribu, il était à la fois prêtre et roi et prophète de sa famille. Donc, il devait parler de la part de Dieu, il régnait comme un roi, et il était aussi l'intermédiaire, entre guillemets, entre Dieu et sa famille. Donc, il avait ce rôle prêtre, roi, prophète. Et à quoi il réduit ça ? On va bien manger, puis je vais te bénir. C'est quand même un peu gênant. Comment est-ce qu'il ose confier la bénédiction d'Abraham et Isaac, ça c'est une question grave, à un homme qui a méprisé son droit d'aînesse? Mon avis, il est au courant, dans un campement, je ne pense pas que ça a pu passer inaperçu. Donc ses responsabilités, il a refusé ses responsabilités, et il lui confie, il lui donne la bénédiction, ça ne va pas. Et qui a épousé des femmes idolâtres, quand on sait que ce sont les femmes qui, de tout temps, je suis encore vrai aujourd'hui, mais enfin particulièrement à cette époque, qui transmettaient la religion. Alors, comment est-ce qu'il est prêt à donner la bénédiction dans ces conditions-là ? Il ne tient pas compte de l'exemple d'Abraham, d'Isaac et de Rebecca, et il va donner sa bénédiction. La bénédiction d'Abraham, c'est quelque chose quand même, à quelqu'un qui est déjà dévoyé. Heureusement, Rebecca, une vraie maman juive, je ne sais pas si vous avez écouté Gad Elmaleh, mais ça peut vous donner des idées sur qui était Rebecca. Rebecca était la vraie maman juive. Elle était sur le qui-vive. Puis les tentes, c'est pratique. Hein. On entend bien ce qui se passe. Elle entend la conversation où on lui rapporte et elle va vite le rapporter à Jacob. Rebecca dit à Jacob, « J'ai entendu ton père dire à Isaü, ton frère, apporte-moi du gibier et prépare-moi un plat appétissant pour que je le mange et je te bénirai devant le Seigneur avant ma mort. Maintenant, mon fils, écoute-moi. Voici ce que je t'ordonne. » Moi, c'est une vraie maman juive, là. Alors notre Rebecca, je dirais qu'elle a les défauts de ses qualités. Moi, je l'aime bien Rebecca, quelque part. Elle prend des décisions rapides. Hein, on ne laisse pas traîner les choses. Elle est entière. C'est pas possible. Elle a très bien intégré l'appel de Dieu sur la famille d'Abraham, et elle y a adhéré. Rappelez-vous que quand Eliezer est venu la chercher, sa famille lui dit « Tu veux pour rester encore un petit peu avec nous ?»« Non, je suis cet homme. » Elle savait ce qu'elle elle était vraiment. Elle savait où est-ce qu'elle allait, elle était consciente de l'appel de Dieu, même si les cadeaux y ont peut-être été pour quelque chose, mais elle avait quand même plus dans sa famille. Elle avait plus à perdre, je pense. Elle quittait tout, hein, tout son passé et tout, c'est quand même pas évident. Il n'y avait pas de train à l'époque, c'était à plus de 400 km, bon, quand même. Hein. Elle a respecté le droit d'aînesse, elle en est consciente, elle est consciente à la fois des responsabilités de la bénédiction, c'est très important pour elle, humainement et spirituellement, parce qu'elle était consciente d'avoir épousé celui qui avait le droit d'aînesse, hein, par rapport à Ismaël. Elle croit à ce que Dieu lui a dit lors de la naissance des jumeaux, puis elle y tient comme un chien à son os. Dieu a dit, je lâche pas. Dieu a dit, c'est lui, il est né, moi je veux rien savoir d'autre. Elle est bien consciente qu'Ésaü s'est totalement disqualifié. Donc quelque part, elle a raison. Elle est consciente qu'Ésaü n'est plus qualifié pour être le prochain chef de tribu, le prochain émir, si vous voulez, en moderniser la situation. Et il s'est disqualifié par rapport aux promesses qui avaient été faites à Abraham. Si tu te détournes pas, si tu suis mes commandements, je les ai cités la dernière fois. Problème, c'est que Jacob est son chouchou. On a un problème héréditaire dans cette famille avec les chouchous. Hein. Jacob va faire la même chose avec Joseph. Et elle prend les choses en main, ce qui n'est pas forcément mauvais, mais sans consulter Dieu. À chaque fois, on se fait avoir quand on prend des décisions sans consulter Dieu. « Ah, mais je vais faire ça. Il y a ça et ça qui se présente. Bon, pouf, 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 je fais ça. » Et là, on se fait coincer. Surtout les gens actifs, les gens dynamiques parmi nous, on est plus susceptibles d'agir comme ça et de faire des grosses bêtises. Vite, vite, bon, je sais ce qu'il faut faire. Elle ne consulte pas Dieu. Elle n'a absolument pas confiance dans la capacité de Dieu de résister à Isaac. Sarah avait déjà manqué de foi, hein, puisqu'elle lui avait donné, elle avait donné à Abraham sa servante. Et on retrouve un petit peu, c'est déjà dans la famille aussi, ça. Bon, bah écoute, Dieu, il ne fait pas les choses comme j'attends ou aussi vite. Bon, moi, j'ai une solution. Donc, elle n'a pas confiance que là, Dieu peut arrêter Isaac. Elle va même profiter de son autorité pour ordonner, et vous allez voir, elle répète ses ordres. Elle va même jusqu'à prendre, si malédiction il y a, prendre la malédiction sur elle. Et c'est ce qui s'est passé. Son chouchou, elle ne l'a pas revu avant, jusqu'à sa mort. Enfin, elle est morte sans avoir revu son fils. Quand même dommage. Elle est très habile pour monter tout un stratagème. Moi, je trouve que c'est une vraie comédienne. Elle pense à tout, y compris au costume et au maquillage. Rien ne lui échappe. C'est vrai que l'être humain peut être extrêmement inventif pour remplacer Dieu quand il ne lui fait pas confiance. Je ne fais pas confiance à Dieu, alors moi, je vais monter tout mon truc. Puisque Dieu n'a rien fait, hein, bah, il faut le remplacer. Mais c'est pour accomplir sa parole, hein. On est justifié, hein. C'est pour accomplir sa parole. Et là, je pense évidemment à combien de mariages, de carrières, combien d'enfants ont échoué parce que quelqu'un a cherché à remplacer la voix de Dieu par tout un tas de stratagèmes, au lieu d'aider la personne à consulter Dieu. Et là, pour nous chrétiens, c'est très important de ne pas donner des conseils sur notre sagesse quand les gens sont en difficulté, mais d'aider les gens à chercher Dieu. À moins qu'on soit vraiment certain, et auquel cas il faut dire, je crois que, je pense avoir entendu Dieu, mais n'allons jamais dire à quelqu'un, Dieu te dit, tu dois faire ci, tu dois faire ci, tu dois faire ça, c'est extrêmement dangereux. On peut faire comme Rebecca, dans des cas comme ça. Il faut apprendre aux gens à consulter Dieu, prier avec eux, les laisser trouver là, le chemin du Seigneur, sauf si vraiment il y a un danger majeur, hein. Mais voyez ce que je veux dire. Soyons prudents de ne pas faire comme Rebecca. Surtout avec nos enfants, d'ailleurs. Ne cherchons pas à remplacer la voix de Dieu dans la vie des gens. Est-ce que nous sommes parfois tentés, nous aussi, d'aider Dieu à réaliser ses promesses dans nos vies pour aller plus vite ou parce que nous pensons que c'est le bon moment ? Pour aider Dieu, on va user de stratagèmes, de manipulations ou de pressions. Ça, j'ai vu souvent. Des pressions pour aider Dieu. Hein. Oh oui, il faut que Dieu fasse ceci, alors on fait pression. Pourtant, la Bible nous montre que rien ne peut empêcher Dieu de faire sa volonté. Est-ce qu'on est convaincu de ça ? Rien ne peut empêcher Dieu de faire sa volonté. Et vous savez, j'ai un exemple à propos justement de bénédiction. On a un exemple dans la Bible qui est énorme. Je ne sais pas si les enfants se souviennent d'un certain petit âne qui avait parlé. Dans la Bible, il n'y a pas beaucoup d'animaux qui parlent, mais il y a eu un âne qui a parlé. C'est pour ça que les femmes peuvent prêcher aussi. Bien. Ce petit âne avait dit des choses très justes à un certain Balaam. Le roi Barak avait dit à Balaam, « Tu vois ce peuple qui est là ? Eh bien, il faut le maudire. » Balaam dit, « Non, je ne peux pas, tu sais. » Il était prophète, mais bon, non, quand même. Et puis bon, il lui a offert des cadeaux. Il alternait un peu cadeaux, menaces. Enfin, ça a été tout un bin, jusqu'à ce que Balaam craque, monte sur la montagne, regarde le peuple d'Israël en bas. Ça se passe bien après mon histoire de Jacob, évidemment. Et puis, il se prépare à maudire le peuple d'Israël. Et il ouvre la bouche et il le bénit. Une fois, le roi Barak dit, bon, c'est peut-être le mauvais endroit. Vous savez, ils étaient très superstitieux. Donc, il le fait aller à un autre endroit. Deux fois. La troisième fois, Barak, il craque, il dit, fiche le camp, je ne veux plus te voir. Et il n'a pas réussi à maudire le peuple d'Israël. Donc, la même chose aurait pu se produire avec Isaac. Pourquoi prendre la place de Dieu ? Dieu était capable de réaliser ce qu'il avait prévu. Il pouvait mettre d'autres paroles dans la bouche d'Isaac, j'en suis sûre. On le voit donc dans la Bible. On voit aussi cette scène, et là c'est Jacob qui a raison pour une fois, au moment où il va bénir les fils de Joseph, donc ses petits-fils, il y a tout un jeu de mains qui sont interverties, et Joseph essaie de remettre les mains dans le bon ordre, la droite sur l'aîné, la gauche sur l'autre, et il les remet en disant non, c'est comme ça. Il avait entendu la voix de Dieu. Donc, vous voyez, il s'est amélioré, notre Jacob, avec les années, comme le bon vin. Donc, on ne peut pas réaliser les promesses de Dieu en forçant les choses, en faisant à la force de notre poignet, ou en forçant les gens. Ça, c'est une source de gros ennuis. Même si on sait que c'est la volonté de Dieu, on ne peut pas forcer ni les choses, ni les gens. Et parfois, même avec nos enfants, il faut les laisser faire certaines erreurs quand on voit qu'ils n'entendent plus rien. Moi, je me souviens que j'en avais, je ne sais plus lequel des trois avait une fascination pour le four. Et après avoir dit 36 fois « touche pas, tu vas te brûler », la seule solution, j'ai profité que je faisais des meringues, que le four n'était pas trop chaud, j'ai laissé toucher. Il n'y a pas d'autre solution. Après, on a été tranquille. Mais parfois, il faut nous laisser, il faut que Dieu nous laisse faire des sottises. C'est pas souhaitable, il faut tout faire pour l'éviter, mais on ne peut pas toujours forcer les gens, et surtout quand ils sont adultes. Un enfant, on peut toujours contraindre, et on est responsable de nos enfants. On ne va pas les laisser faire des sottises si on sait qu'ils vont se faire du mal. On est responsable d'eux, jusqu'à leurs 18 ans légalement, on est responsable de leurs actions, et on ne doit pas les laisser faire des choses qui ne vont pas. Ça, c'est clair. Mais après, on a nos genoux pour prier, et croyez-moi, c'est très efficace. La prière d'une maman, la prière des parents, c'est très très efficace, méfiez-vous les enfants. J'en ai fait l'expérience, c'est terrible la prière des parents. Terrible. C'est bien pire que leur dispute, croyez-moi, c'est plus efficace. Alors chercher à faire avancer la promesse de Dieu, ça fait mal à tout le monde et ça retarde les promesses. Donc c'est pas la peine d'essayer de forcer la main de Dieu. Je crois que ça c'est quelque chose que j'ai compris il y a longtemps. C'était John Wimber ou Wilkerson qui disait « On ne peut pas tordre le bras de Dieu pour lui faire faire ce qu'on veut. Ne cherchez pas, ça fera des dégâts. » Bien, notre Jacob, pendant ce temps-là, eh bien écoutez, quand sa mère lui dit « Tu vas faire ça », donc je vous dis quand même ce qu'elle lui conseille, parce que certains peut-être le savent pas. Elle lui dit « Écoute, va me chercher deux bons chevreaux. » Bon, ça c'est de la triche, hein, c'était pas du gibier ça. C'est des petits des chèvres. « Je t'en prie. » Et j'en ferai pour ton père un plat appétissant comme il les aime. » Donc, ils devaient partager les mêmes recettes, hein, la mère et le fils. « Tu l'apporteras à ton père pour qu'il le mange, afin qu'il te bénisse avant sa mort. » Jacob répond à Rebecca, « Ésaü, mon frère, est velu, tandis que ma peau est toute lisse. Peut-être mon père me tâtera-t-il, et il croira que je me suis moqué de lui. Ce n'est pas une bénédiction, mais une malédiction que je ferai venir sur moi. » Sa mère lui dit « Que cette malédiction soit sur moi, mon fils. Écoute-moi seulement et va me chercher les chevreaux. » « Oh, ne discute pas, va chercher tes bestioles. » Il alla les chercher et les apporta à sa mère. Sa mère prépara un plat appétissant comme son père les aimait. Ensuite, Rebecca prit les vêtements d'Ésaü. Et là, elle était bien inspirée. Hein. Son fils aîné, les plus beaux qu'elle avait à la maison, elle les fit mettre à Jacob, son fils cadet. Entre parenthèses, le fait qu'elle avait les vêtements d'Ésaü encore chez elle, c'est comme les enfants qui, quand ils se marient, vous laissent tout un tas de bazar chez vous. Vous verrez ceux qui n'ont pas encore la situation. Ils vous font tous ça. Moi, je l'ai fait chez mes parents aussi, alors je ne peux rien dire. Mais ça prouve aussi que quand Ésaü avait l'air de crever de faim, il avait des ressources, à mon avis. Voilà, c'est une preuve supplémentaire qu'il y avait quand même des interconnexions dans la famille suffisantes. Hein. Donc, elle prend les habits les plus beaux, elle les fait mettre à Jacob, son fils cadet, et de la peau des chevreaux, elle couvrit ses bras ainsi que son cou qui était lisse. Puis elle mit le plat appétissant et le pain qu'elle avait préparé dans les mains de Jacob, son fils. Elle lui fait tout. Voilà mon gars, je suis là, je fais tout pour toi. Il n'y a pas de souci. C'était pas bête. Elle avait pensé vraiment à tout. Même à l'odeur des vêtements. On ne lavait pas le linge comme maintenant et les odeurs restaient sur les vêtements, même si le linge était propre. Malheureusement, Jacob, lui, il va avoir que des objections complètement techniques, pratiques. Ah oui, mais... Moi, je suis pas velue comme lui, donc il va s'en apercevoir. Sentimental, oh, je voudrais pas que papa pense que je me moque de lui. Superstitieuse, je voudrais pas que la bénédiction se change en malédiction. Mais l'argument principal, il n'était pas là, c'était lequel? C'est celui que Jésus a utilisé avec Satan. Dieu a dit. C'est le seul. Et vous savez, quand on se trouve en face de gens comme ça, comme notre Rebecca, ce n'est pas des gens méchants, mais qui aiment bien prendre les choses en main, il ne faut jamais utiliser des arguments pratiques, sentimentaux ou superstitieux. Enfin, j'espère que nous, on n'utiliserait que les pratiques et les sentimentaux. Parce qu'en fait, ça n'a pas de poids. Ils ont tellement bien les choses en main. Le seul argument qu'il aurait dû utiliser et qui aurait certainement été efficace, c'est « Dieu a dit ». Dieu a dit. Quand on se trouve en face de situations comme ça, on n'a qu'un seul recours. Qu'est-ce que Dieu a dit? Les arguments pratiques, ils ont des réponses. Les arguments sentimentaux, il y a des réponses. Ça m'a fait réfléchir. Tout ceci se faisait par le raisonnement et pas par la foi. S'il avait pu dire « Maman, Dieu est assez grand pour réaliser ses plans », je pense que ça aurait été un électrochoc pour une femme qui aimait Dieu. « Maman, Dieu est assez grand pour réaliser ses plans, t'as pas besoin de faire tout ça ». Mais il n'avait que des arguments pratiques. Je ne veux pas qu'il croie qu'on se moque de lui. Je suis pas velue, moi ça ne va pas passer. Bon. Quand quelqu'un cherche à manipuler, surtout s'il est aussi doué que Rebecca, le raisonnement humain ne peut pas tenir. Et ça, je le sais par expérience. On ne peut pas, devant une manipulation, réagir par le raisonnement humain. Il n'y a que la parole de Dieu qui peut nous sauver et sur laquelle on peut s'appuyer. Jacob va se trouver obligé de mentir, et ça devient quand même un gros problème dès le début, et ça 5 fois, j'ai compté, ça c'est quand même dur, parce qu'il se présente avec son plat, donc elle lui a mis dans les mains, elle l'a déguisé en quelque sorte, il devait être rigolo à voir, d'ailleurs pour les enfants j'aurai un petit dessin avec les peaux à coller dessus, il arrive avec son déguisement, les habits de son frère, le plat dans les mains, et il arrive devant son père. Et il lui dit « Père !» Celui-ci répondit « Je suis là, qui es-tu mon fils ?» Aïe, ça commence mal, pourquoi il pose cette question? Jacob répond « Je suis Ésaü, ton premier-né. » Premier-né aux yeux de Dieu, c'était un demi-mensonge. Mais Ésaü, c'était un mensonge 100%. « J'ai fait ce que tu m'as dit. Bon. Lève-toi, je te prie, assieds-toi et mange de mon gibier afin que tu me bénisses. » Isaac dit à son fils « Comme tu l'as vite trouvé, mon fils. » Aïe, qu'est-ce que je vais répondre à ça? C'est que le Seigneur, ton Dieu, et ça c'est fort, ton Dieu, on va voir qu'il n'est pas encore son Dieu. C'est que le Seigneur, ton Dieu, l'a fait venir au devant de moi. Oh bah tiens, un chasseur dirait pas ça, mais enfin bon. Et Isaac, il a des doutes, je ne sais pas si c'est à propos des histoires de chasse de son fils, ou si c'est ton Dieu, parce que ça ne devait pas être dans le vocabulaire d'Ésaü. On ne sait pas, encore pareil, la Bible nous laisse réfléchir par nous-mêmes. Isaac dit à Jacob, approche-toi, je te prie que je te tâte, mon fils, pour savoir si tu es bien mon fils Ésaü. Oh là 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 là. Jacob s'approche et Isaac dit, c'est la voix de Jacob, mais ce sont les bras d'Ésaü. Il y a quand même, hein, vous savez que en plus, bon, l'ouïe est plus développée quand on a un sens qui diminue, c'est l'autre qui prend un peu le relais. C'était quand même, il était presque sur le point de découvrir la vérité. Et Cathy me parlait d'un message qu'elle a entendu sur « C'est la voix de Jacob, mais ce sont les bras d'Ésaü ». Parce que dans notre vie, parfois, hein, on dit des choses, mais notre bras fait autre chose. Ça devait être un message intéressant, je le signale en passant. C'est un sujet de réflexion. Il ne le reconnut pas parce que ses bras étaient velus comme ceux d'Ésaü, son frère, et il le bénit. Donc il ment 5 fois. Qui es-tu, mon fils ? Il dit, je suis Ésaü. Comme tu l'as vite trouvé, c'est Dieu qui l'a fait venir. Bah oui, quelque part, hein, c'était sa mère qui... Enfin bon. Approche pour savoir si tu es mon fils. Là, il ment de nouveau. C'est la voix de Jacob, le bras d'Ésaü. C'est bien toi, Ésaü, mon fils. Approche, embrasse-moi. C'est vraiment le baiser de Judas. Et là, il lui dit, c'est bien toi, Ésaü, mon fils. Il répondit, c'est moi. Il dit, serre-moi que je mange du gibier de mon fils afin que je te bénisse. Jacob le servit, il mangea, il lui apporta du vin et but. Alors Isaac lui dit, approche, je te prie, embrasse-moi. Il s'approcha, il l'embrassa. Isaac sentit l'odeur des vêtements et là, il est convaincu, il va le bénir. Bon, je suis allée un petit peu vite, mais vous pourrez relire ce passage. Et en fait, ça va être, elle avait bien réfléchi, notre Rebecca. C'est l'odeur des vêtements qui va lui donner le top. Elle avait vu juste. Et là, il va laisser parler son cœur. Il va complètement oublier la parole de Dieu à la naissance des jumeaux et il va même y opposer la sienne. Et on dirait qu'il en fait exprès. Et c'est là qu'on voit que Dieu est le maître des événements et qu'il va même utiliser cette supercherie. Parce qu'il va être très ferme dans sa bénédiction en disant « Sois le maître de tes frères ». Dieu a dit autre chose, mais moi, je dis mon chasseur Ésaü, mon chouchou, c'est lui qui va être le maître. C'est grave quand même, il allait très mal, et je pense Isaac à ce moment-là. Il allait très mal pour oser opposer sa parole avec autant d'autorité à celle de Dieu. Quel culot ! Il allait vraiment pas bien. Mais quelque part, il respectait la coutume. Il respectait la coutume. Et j'ai réfléchi un petit peu comment Dieu, souvent, ne respecte pas nos cultures et nos coutumes. La coutume, c'était le droit d'aînesse au premier-né. Et Dieu a souvent cassé ce schéma. Souvent. Il y a toute une liste de personnages bibliques où il a cassé ce schéma. Dieu est libre par rapport à nos coutumes humaines. Parfois, il va utiliser des jeunes pour enseigner des gens plus âgés. Ça choque, même dans nos pays, ça choque. Et l'exemple le plus probant dans la Bible, c'est le jeune Samuel. Dieu va lui parler et il est obligé d'aller gronder le vieux prêtre Élie. Il y avait une autorité, quand même. Et Dieu va utiliser un enfant qui réveille la nuit, qui n'est même pas capable d'entendre sa voix la première fois, qui doit attendre 3 fois pour réaliser que Dieu lui parle. Puis un message très lourd. Dieu souvent va à l'encontre de nos habitudes, de nos cultures, de nos coutumes. Pas de la morale, hein, mais de nos coutumes, de notre culture. Ce n'est pas la même chose. Et il va souvent à l'encontre même de la sagesse du monde. Et qu'est-ce qui est écrit dans la Bible, hein ? La folie de Dieu qui confond les sages. Vous trouvez souvent dans la Bible des choses comme ça qui sont le roi de gloire, couronné d'épines, le roi serviteur, souffrant. Pourquoi les Juifs ont eu tant de mal à reconnaître Jésus ? Parce que Dieu avait complètement passé au-delà des coutumes. Un roi, ça devait avoir un cheval blanc, ça devait se déplacer, vivre dans un palais avec une armée, une cour. Et qu'est-ce qu'on a ? Un charpentier ! Qui naît dans une étable, qui vit avec des disciples qui sont pêcheurs de poissons. Ça devait sentir le poisson chez eux parce qu'ils en mangeaient souvent. Vous voyez, Dieu aime bien changer les choses pour nous faire réfléchir à ce qui est important. Et pas nos coutumes, pas nos habitudes familiales, pas nos... Et c'est dur, hein, parce qu'on a tous nos habitudes tribales, familiales. Dans la famille Dupont, on a toujours fait comme ça. On entend souvent ça dans le monde. Ben oui, mais avec Dieu... Dieu n'ira pas contre sa loi, contre la morale, entendez-moi bien. Mais les petites habitudes, les petites coutumes familiales, Dieu est capable de les renverser. On le voit avec Samuel, on le voit avec Jésus, à 12 ans, qui interroge les prêtres dans le temple. C'est choquant. C'est choquant. Je vous assure qu'à l'époque, c'était choquant. Ça serait même encore choquant, je pense, aujourd'hui. Jésus qui lave les pieds de ses disciples, le roi, c'était le rôle des esclaves, et encore les esclaves de le rang le plus bas. Les esclaves des esclaves, c'est eux qui lavaient les pieds des visiteurs. C'est Jésus qui le fait. Et je pense aussi à l'importance des enfants. Vous savez que moi, j'aime beaucoup les enfants. Et pour moi, les enfants ont des tas de choses à nous apporter. Pourquoi ? Parce qu'ils ont une foi simple, sans complications, et ils savent prier avec leur cœur. Et je ne peux pas m'empêcher de vous raconter cette histoire. Je suis bien en retard dans mon truc, mais tant pis. D'une maman qui, je ne sais plus pour quelle raison, ne voulait pas de... Je ne sais plus si c'était un troisième ou un quatrième enfant, je ne sais plus. C'est une histoire vraie. Hein. Et donc, elle était absolument furieuse d'attendre ce bébé. Furieuse, vraiment. Et toute la grossesse, elle n'était pas contente. Et elle a eu ce bébé. Et bon, évidemment, comme elle n'était pas méchante, elle s'en est occupée. Mais elle avait toujours ce... Et puis un jour, elle est gravement tombée malade. Et le médecin ne pouvait pas la sauver. Je crois que c'était avant-guerre, si je me souviens bien. Et ça allait de mal en pire. Et elle allait mourir, en fait. Et ce petit bout de chou qui avait, je ne sais pas... Enfin, il savait bien parler, bien prier, peut-être 5 ans. Est venu près de son lit et était vraiment, vous imaginez ce qu'il ressentait, s'est mis à genoux et a prié, « Seigneur Jésus, guéris ma maman, guéris ma maman !» Il pleurait, il priait. Ce jour-là, la maman était guérie. Et là, elle a compris quelque chose. Cet enfant qu'elle n'avait pas voulu, c'est grâce à lui qu'elle a été guérie. Et Dieu avait prévu qu'il y ait un enfant rempli de foi dans cette famille pour amener la guérison au moment voulu. Cette histoire vraie hein, m'a beaucoup touchée. L'importance des enfants, de la prière des enfants. Ce n'est pas parce que vous êtes jeune, que vous avez 7, 8, 10 ans, 15 ans, 12 ans. Ce n'est pas pour ça que vous n'avez rien à dire dans votre famille. Vous avez un rôle dans la prière et dans la foi. Que peut-être les adultes, vous savez, les adultes, ils ont des tas de défauts dans ce domaine. Ils pensent à tout ce qui peut ne jamais arriver. Et il y a un livre très bien qui explique que dans la tête d'un papa et d'une maman, il ne faut pas leur dire aux parents, hein, il y a des gremlins, c'est les gremlins de l'inquiétude. Et ils font une carte du cerveau d'un parent, puis ils montrent tout ce qui ne va pas dedans, il y en a plein de choses. Et entre autres, il y a les gremlins de l'inquiétude. C'était le livre favori de Florence. Et il y a du vrai là-dedans. Et quelquefois, pour vous qui n'avez pas ces gremlins dans la tête, c'est plus facile de prier avec foi. Pour vos parents, pour les situations familiales. Et Dieu honore votre foi. Donc, c'était pour vous dire que Dieu se sert de gens, on ne s'y attendrait pas nécessairement. Il aime bien retourner les situations, comme il a fait avec Jésus. Et c'est ce qu'il fait avec Jacob. Et c'est triste qu'Isaac n'ait pas eu cette souplesse. Il ne l'a pas eu du tout. Au contraire, il a opposé sa parole jusqu'à carrément dire, et là, je pense que c'était intentionnel, « Sois le maître de tes frères. » Au cas où la parole de Dieu aurait un peu d'efficacité, hop, j'oppose ma parole. Manque de chance. Vous ne savez pas qui était en dessous. Jacob, lui, se retrouve pris dans une série de mensonges. Et là aussi, les enfants, faites attention. Quand on commence à mentir, c'est comme un toboggan aquatique. Une fois qu'on est dessus, il faut descendre. Il n'y a pas d'autre solution. Vous n'essayez pas de remonter, d'abord c'est interdit. Mais je ne pense pas que ce soit très possible. Parce qu'une fois qu'on commence à dire un mensonge, il faut en donner un deuxième pour justifier le premier, un troisième pour justifier le deuxième, un quatrième, et ainsi de suite. Et on accumule les mensonges, et on s'enfonce dans la boue. Et là, c'est exactement ce qu'il fait, il va même jusqu'à mettre le nom de Dieu dans le cou. Il ne connaît pas Dieu, notre Jacob, à ce stade-là. Il n'a pas de relation personnelle avec Dieu. Il en a entendu parler, mais il n'a pas de relation personnelle, puisqu'il va dire, le Seigneur ton Dieu a fait venir le... C'est presque un blasphème, c'est quand même choquant. Mais il se sent justifié parce qu'il se dit, Dieu m'a promis cette bénédiction, même si je marche sur les autres pour y arriver, c'est pas grave. Dieu m'a promis cette bénédiction, il est tout puissant pour m'ouvrir la porte au bon moment. Non, ça c'est pas ce qu'il a dit. Je prends les choses en main. Et tant pis s'il faut mentir. C'est dur quand même. Il n'était pas prêt à dire « Je me prépare aussi longtemps qu'il le souhaite pour être prêt à accueillir ta bénédiction. » Parce que ce n'est pas non plus être passif, parce qu'il y a des gens qui disent parfois oh, « bah oui, on attend, et puis on ne fait rien, puis tu crois que Dieu, comme ça, va envoyer le... » Non, on se prépare pour accueillir la bénédiction de Dieu. Et je pense quelqu'un qui veut une promotion au travail, par exemple, je prends cet exemple parce qu'il est plus neutre, quelqu'un qui veut une promotion au travail, c'est sûr que c'est en travaillant bien et consciencieusement qu'il obtiendra cette promotion. Il faut qu'il soit prêt à accueillir cette promotion. S'il l'attend comme un miracle qui va tomber du ciel pendant qu'il se tourne les pouces devant son bureau, il rêve. Dieu ne nous invite pas à la passivité. Hein. C'est pareil pour les enfants. Hein. Ce n'est pas parce que Dieu vous a donné un bon cerveau que vous allez réussir vos examens comme ça. Il faut se préparer hein, pour accueillir la bénédiction. La bénédiction d'un bac avec mention, il faut se préparer. Hein. C'est pas... Seigneur, tu m'as promis de me faire réussir dans la vie. Ah ah! Il faut se préparer. Mais c'est pas pour ça qu'on va copier sur le copain qui a des meilleures notes. Ça, c'est marcher sur les autres. Ça, c'est faire comme Jacob. On ne triche pas. Jacob n'a visiblement aucune relation personnelle avec Dieu, ou très peu. Et là, les enfants, encore une fois, c'est à vous que je m'adresse, mais ça peut s'adresser aussi à certains adultes, mais on peut vivre dans une famille chrétienne, une famille qui respecte Dieu. On peut parler le même langage, prier à table, remercier Dieu. On peut prendre part aux activités de l'Église, mais pas avoir d'expérience personnelle avec Dieu. Et ça, c'est dangereux. C'est dangereux parce qu'on peut avoir l'impression qu'on est chrétien. Parce qu'on parle le langage. Parce qu'on va aux mêmes endroits. On vit dans une famille chrétienne. Et je pense que nous, les parents, prions. Et moi, je prie beaucoup pour les enfants de l'Église. Qui ne restent pas bloqués sur l'idée qu'ils sont chrétiens parce que papa et maman sont chrétiens. Mais ils ont besoin de connaître Dieu personnellement. Ils ont besoin, même s'ils ont un gentil petit cœur, ils sont mignons comme tout, ils rendent grâce à table. Attention, ils ont besoin d'une expérience personnelle avec Dieu. C'est ça qui change notre vie. Et vous allez voir Jacob, c'est ça qui va le changer. Tant qu'il n'aura pas eu cette expérience personnelle, c'est un drôle de cigoto quand même. Et puis voilà, Jacob accorde sa bénédiction, je vais m'arrêter là, hélas. Isaac accorde sa bénédiction, alors vous la lirez à la maison, mais elle est quand même assez forte, hein. Que Dieu te donne la rosée du ciel, c'est-à-dire la pluie, c'est très poétique, hein. Les ressources de la terre, c'est-à-dire la fertilité du sol, abondance de blé et de vin, les deux ressources très importantes à l'époque, ça se vendait, ça se conservait, ça permettait de manger, de boire, et de médicaments aussi, le vin. Que des peuples te servent, que des nations se prosternent devant toi, sois le maître de tes frères, que les fils de ta mère se prosternent devant toi, au cas où il n'aurait pas compris. Maudit soit celui qui te maudit, béni soit celui qui te bénit. Vous allez voir après, au moment du départ, il va en prononcer une autre qui me semble beaucoup plus dans... Elle est dans l'esprit de Dieu, mais l'autre est plus dans l'axe encore. La bénédiction est donnée, donc pour l'agriculture, pour sa vie, ses récoltes, etc., les relations avec les autres peuples, et la bénédiction s'étend déjà aux autres peuples, à l'avenir, etc. Mais Dieu, lui, sait que la bénédiction, je vais terminer là-dessus, n'est pas magique. Quelque part, hein, Rebecca, il faut qu'il ait la bénédiction, et pas Ésaü. Jacob, il faut que j'ai ma bénédiction, j'ai déjà chopé le droit d'aînesse, maintenant je vole la bénédiction avec, le tableau est complet, mais Dieu lui sait que la bénédiction n'est pas magique. Il a laissé faire, ça correspondait de toute façon à ses plans, mais il ne les aurait pas réalisés comme ça, soyons-en sûrs. Mais il sait que la bénédiction n'est pas magique, elle ne sera effective qu'après une longue et dure école. Ça c'est la partie qu'on n'aime pas. Elle va être effective, elle va se réaliser cette promesse, et la suivante aussi, hein. Mais d'abord, il va mettre Jacob à l'école, et comment il va faire ? Eh bien, il va lui faire récolter ce qu'il a semé. C'est pas parce qu'on est chrétien qu'on récolte pas ce qu'on a semé, hein. Il y a des choses que Dieu nous épargne, c'est vrai. On demande pardon et Dieu nous épargne. Mais la jeune fille qui s'est trouvée enceinte et puis qui a un bébé, Dieu ne tue pas l'enfant pour autant. Dieu peut permettre que ça devienne un homme ou une femme de Dieu. C'est là qu'on voit Dieu est merveilleux. Hein, alors que la société autrefois mettait ses enfants au banc de la société. Dieu s'est servi de gens merveilleux. Hein, et à des serviteurs de Dieu formidables qui sont nés dans des circonstances tristes. Donc vous voyez, Dieu est formidable. Mais on récolte ce qu'on a semé parfois. On ne peut pas tout supprimer. Dieu parfois supprime certaines choses, mais il y en a qu'on ne peut pas. Et Jacob... il va récolter ce qu'il a semé. Il va récolter ce qu'il a semé. Il ne va jamais revoir sa maman. Il a obéi à sa maman sans chercher Dieu. C'était ça son problème. Il va travailler dur et gratuitement pour quelqu'un qui va le tromper sur toute la ligne. Mais après, il deviendra le troisième patriarche, autonome et riche, seulement soumis à Dieu. Et c'est ça qu'il voulait en ayant le droit d'aînesse, être ce troisième patriarche, responsable, béni de Dieu. Mais ce n'était pas magique. Il va falloir qu'il passe par une école. Et souvent, j'entends souvent des témoignages de gens qui se disaient, Je veux servir Dieu, je veux être un homme de Dieu. Et alors, il passe par toutes sortes d'épreuves, par toutes sortes de difficultés. Comme disait John Beveret, ils lavent les toilettes, ils font des tas de choses. Ils font le taxi pour l'église, ils font des tas de choses pendant des années. Ils disent, oh, mais je croyais que Dieu voulait que je sois un homme de Dieu. Mais pendant cette période, il y a une telle formation que ça devient vraiment des hommes de Dieu. Et si on regarde bien les hommes de Dieu autour de nous, ceux qui ont vraiment marqué la société, c'est ceux qui ont vécu cette école. Pas toujours parce qu'ils avaient semé des mauvaises choses, mais ils ont vécu cette école de transformation. Ce n'est pas les cours de transformation qu'on fait là le dimanche soir, mais cette école de transformation qui a fait d'eux des hommes de Dieu. Donc là, on va quitter, hélas, Jacob, j'ai dépassé mon heure, on va le quitter à la fin de sa bénédiction, on va le retrouver la fois prochaine avec son frère. Le face-à-face avec le frère, ça ne va pas être facile à vivre. Voilà, que Dieu nous bénisse.